Le rapport préliminaire de l'audit du fichier électoral publié vendredi dernier par l'Organisation internationale de la francophonie indique que plus de 16% de personnes ont été enrôlées sans empreinte digitale et 0,34% de doublons enregistrés. Par contre, l'opposition estime qu'il s'agit plutôt de 23% d'électeurs dont l'enrôlement était irrégulier. Comment analyser ce rapport de l'OIF? Pour en parler, je reçois professeur Jacques Joly. Bonsoir professeur. Vous êtes sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC et aussi ancien vice-président de la CENI. Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, vous êtes analyste des questions électorales. Gilbert Mouika, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est premier coordonnateur adjoint du Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Des faiblesses sont contenues dans le fichier électoral de la CENI, selon le chef de la mission de l'Organisation internationale de la francophonie. Siaka Sangaré parle de plus de 16% de personnes enrôlées sans empreinte digitale et 0,34% de doublons potentiels. Annonce faite vendredi dernier à Kinshasa lors de la publication des résultats de l'audit. Il recommande à la CENI de poursuivre le nettoyage du fichier. Ses propos sont recueillis par Paul Matendo.
Nous avons demandé à titre de recommandation que la CENI poursuive les investigations portant sur l'absence de motifs pour les électeurs ayant été enregistrés sans empreinte et également de paramétrer les logiciels de saisie des données biométriques pour garantir l'application d'un motif pour l'inscription sans empreinte. Si dans le module d'enregistrement, il y a l'obligation de préciser, de donner le motif, je crois que cela permettra de mener des investigations beaucoup plus approfondies. Les experts, les informaticiens qui sont venus ont approfondi les recherches et ont pu identifier 0,34% de doublons potentiels, je dis bien potentiels, demandant à la CENI de poursuivre ces opérations qui sont en cours actuellement.
Voilà, notez que les membres de l'opposition qui sont dans le comité d'audit n'ont pas assisté à cette cérémonie. Professeur Jacques Joly, vous êtes sénateur de l'opposition, inspecteur général du MLC, également ancien vice-président de la CENI. Le rapport de l'OIF que j'ai sous les yeux, le rapport préliminaire, dit dans ses conclusions, un fichier électoral inclusif, exhaustif et actualisé mais perfectible et donc nécessitant des améliorations et en fait l'objet de recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. Professeur, comment vous avez accueilli ces conclusions?
Merci beaucoup. Je vous remercie donc pour cette invitation. Je dois vous avouer que c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que j'ai lu ce rapport. Et de le départ, nous avions des inquiétudes sur la pertinence, la cohérence, la finalité de la mission du général Sangaré et ses experts. Nous lui avons dit que nous ne voyons pas l'intérêt de ce travail à partir du moment où la CENI avait déjà présenté la loi portant répartition des sièges. Et au-delà de cela, nous sommes habitués un peu à l'OIF depuis pratiquement 3-4 ans avec ces langages de bois où on dit que le fichier est inclusif, exhaustif, actualisé, mais perfectible. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire, tout et rien. Et c'est vraiment dommage. Et je crois que le général Sangaré, je l'ai lui dit à plusieurs reprises, en tant que frère africain, qu'il devait faire très attention à ce travail. Le fichier électoral, c'est la base. Le socle de tout le processus. Alors, si on a les mêmes difficultés qu'on avait en 2011 et en 2006, et même de manière aggravée, la CENI elle-même avait constaté qu'il y avait plus ou moins 15% de doublons des majeurs. Et le général Sangaré vient nous dire qu'ils ont trouvé 16,6% de électeurs sans empreinte. Alors, il dit que sur le plan de droit, il n'y a pas de problème, mais je crois rêver. Je crois rêver. Ça, ce sont des électeurs fantômes. L'ensemble du processus de l'identification de l'enrôlement biométrique est basé sur les empreintes et sur la photographie faciale. Si dans un fichier on trouve un nombre aussi élevé de personnes sans empreintes, ce sont des faux électeurs.
Et donc si, des fictifs.
Des fictifs, des fausseurs. Et comment on a pu forcer le protocole d'enrôlement d'identification pour arriver à cela?
Alors, professeur, vous avez suivi les membres de l'opposition qui sont dans le comité d'audit n'ont pas assisté à la cérémonie de publication du rapport préliminaire de l'OIF. Pourquoi?
Mais justement parce que dès qu'on a retrouvé plus de 16% d'électeurs sans empreinte, dès qu'on a retrouvé des électeurs sans photo, dès qu'on a retrouvé des électeurs avec moins de 10 empreintes, n'est-ce pas, moins de 10 doigts, et sans totalité d'empreintes digitales, et là, le chiffre est de 7,4. On a trouvé des électeurs sans formulaire, c'est-à-dire qui n'ont pas rempli ces formulaires. On a retrouvé, et c'est reconnu dans le rapport, la présence des électeurs sans date de naissance, la présence des électeurs sans état civil. Je vous ai parlé des électeurs sans photo, plus ou moins 8747. La présence de nouveaux majeurs n'ayant pas droit au vote. Il fallait qu'on tire le leçon, parce que dès le départ, le but de l'opération, et c'est dit dans le rapport, c'était de restaurer la confiance.
Et donc la confiance pour vous, elle n'est pas...
Vous avez suivi dans les déclarations des dirigeants de l'opposition et les débats étaient là au niveau de la commission des experts. On est arrivé à un chiffre, si on prend ce que la CENI elle-même avait déjà expurgé et le nombre qu'on a, on est au-delà de 25%.
Et donc le fichier n'est pas crédible.
Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est un fichier qui est pollué. Mais comment on fait? Et c'est là où le langage du général a un peu étonné. Il dit oui, c'est un fichier perfectible. Ça va être perfectible quand nous avons déjà la répartition des sièges.
Et donc ça va impacter cette loi, professeur, normalement?
Ça aurait dû impacter. Mais justement, l'incohérence est là. L'audit qui vient avant ou après. Après. C'est pourquoi je parlais de la pertinence de l'audit. De l'audit.
Pourrait-il y avoir une loi, par exemple, rectificative par rapport à la répartition des sièges?
Mais à condition qu'il y ait une même vision. J'ai toujours dit qu'une élection exige que l'ensemble des parties prenantes regardent dans la même direction et qu'il n'y ait pas une partie qui dise « Moi, j'ai le monopole de la vérité, le privilège de la loi, je ne recule pas. » Et d'autres qui regardent d'un autre côté. Et à partir du moment où il y a déjà contestation dès le départ, mais on va avoir contestation à l'arrivée.
Merci professeur, je reviens à vous tout à l'heure. Gilbert Mouika, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes premier coordonnateur adjoint du Centre de coordination des élections de la majorité présidentielle. Vous avez très bien accueilli ce rapport préliminaire de l'OIF. Pourquoi?
Bien. Permettez que je puisse d'abord saluer le professeur. Et nous avons bien accueilli parce que les travaux se sont déroulés normalement jusqu'à la fin. Il n'y avait pas d'incident. Et nous avons bien accueilli parce que ce sont nos propres conclusions. Nous avons travaillé avec les amis de l'opposition, nous avons travaillé avec les amis de la société civile, évidemment il y avait la communauté internationale également, qui a accompagné ces travaux, et il n'y avait aucun problème au soir du 24 mai 2018.
Mais pourquoi l'opposition a boycotté la présentation de ce rapport préliminaire de l'OIF?
Ben, je crois que la présence de l'opposition n'était pas indispensable dans la salle ces jours-là. Parce que le travail proprement dit, nous l'avons clôturé au soir, c'était vers 20h d'ailleurs, au soir du 24 mai 2018. Et à la fin de travaux, le général Sangaré, chef de mission de l'OIF, a posé la question de savoir s'il y avait une recommandation qu'on aurait éludée. C'est la majorité présidentielle, à travers ma modeste personne, qui a levé le doigt pour dire « Effectivement, nous avons soulevé une question qui n'a pas été prise en compte. » Et c'était la question relative à la sécurité juridique du travail des agents de la CENI, donc les agents opérationnels, mais également ceux qui sont sous contrat à durée indéterminée. Nous avons demandé que, partant du règlement administratif et financier, qu'on puisse sécuriser le travail de nos compatriotes là-bas, en mettant en place un statut particulier de l'agent électoral.
Alors, qu'est-ce que...
Alors, cela a été pris en compte, mais malheureusement, le jour de la présentation officielle, la recommandation a encore disparu. Donc, s'il y a des gens qui peuvent se plaindre ou qui pouvaient se plaindre, c'est notamment la délégation de la majorité présidentielle qui n'a pas retrouvé sa recommandation.
Et Mme Bazaïba, dans le même sens, dit qu'il était convenu qu'il soit mentionné dans le rapport final de l'audit que la liste des 23% des Congolais dont l'enrôlement était irrégulier soit publiée et que leur carte soit invalidée, chose qui n'a pas été faite. Elle dit, c'est ce qui explique la raison pour laquelle l'opposition a boycotté la conférence de presse de l'OIF. Ensuite, Mme Bazaïba ajoute qu'elle dénonce aussi le fait que les experts de l'opposition n'aient eu droit au serveur que pendant 30 minutes, la veille même de la publication du rapport.
Faux et archi-faux. Cette déclaration de Mme F. Bazaïba, j'ai beaucoup de respect envers elle, n'engage qu'elle-même. Nous avons été dans la salle. D'abord pour les serveurs, la majorité, la société civile. Nous avons décliné l'offre. On nous a demandé si nous étions preneurs, si nous également, nous avions envie d'aller questionner les serveurs. Nous avons dit que les éléments mis à notre disposition pour analyse étaient puisés dans les serveurs. Donc c'était faire double emploi pour retourner là-bas, dans cette salle-là, où il fait d'ailleurs très très froid, retourner dans cette salle pour aller interroger les serveurs. Il n'y a que l'opposition. Et c'était à la demande de l'opposition. Les amis sont allés là-bas, ils sont revenus, et il n'y avait rien de neuf. La question qu'ils ont posée, c'était une discordance de chiffres. Et ils ont eu leur réponse parce que eux, ils s'appuyaient sur les chiffres bruts qu'ils ont trouvés au serveur, alors que nous avons travaillé sur base du chiffre déjà nettoyé par la CENI. Alors, le premier volet de votre question, Madame F. Bazaïba, estime que les gens étaient sortis pour... Excusez-moi.
Oui, elle dit qu'il était convenu qu'il soit mentionné dans le rapport final de l'audit que la liste des 23% des Congolais dont l'enrôlement était irrégulier soit publiée, que leur carte soit invalidée.
Non, mais c'est d'abord faux. C'était pas vrai. C'est pas vrai ce qu'elle a déclaré. Ça, c'est la première chose. La deuxième, elle est en train de défoncer une porte qui est largement ouverte et elle va se faire mal aux côtes. Ça, c'est la loi. Ça, c'est dans la procédure. Je suis avec l'ancien vice-président de la CENI ici. Ça, c'est dans la procédure. Dans les jours qui viennent, on va publier les listes, on va afficher les listes. Il y aura affichage des listes. C'est alors que les anomalies ou des gens qui auront peut-être à redire, parce que je sais que vous reviendrez sur cette histoire de 16,6% d'enrôlés sans empreinte, c'est alors qu'on pourra dire qu'effectivement ces gens, ils existent ou ils n'existent pas. Alors, c'est assez hâtif de parler des fictifs.
Les 16,6% auxquels vous faites allusion, le prof Joly a dit que si on ajoute les doublons relevés par la CENI dans l'audit interne, on est au-delà de plus de 25% et que le fichier n'est pas crédible.
Vous savez, il y a 10 éléments qui entrent en ligne des comptes pour identifier un électeur. Et là-dedans, il y a notamment les empreintes digitales. Il y a notamment les empreintes digitales. Alors, quelqu'un qui remplit toutes les conditions et qui malheureusement a souffert de la lèpre, excusez-moi de le dire, et il perd un doigt, ou de suite d'un accident, il n'a plus les 10 doigts, parce que c'est 10 doigts qu'on exige, il n'a plus les 10 doigts, vous allez dire non, celui-là il est fictif, alors que
tous les autres éléments entrant en ligne de compte sont réunis, et surtout qu'il a la photographie. Vous savez, les empreintes digitales, c'est du sensationnel en fait, on essaye d'exagérer. Les empreintes digitales sont exigées juste pour la sécurité des données personnelles des enrôlés. C'est pour ça. Donc, quand il n'y a pas d'empreinte digitale, ce n'est pas un empêchement d'irrimon pour qu'on dise que celui-là, il a droit au vote. Comment voulez-vous rejeter cette catégorie des Congolais? Il y a par exemple nos parents à l'intérieur du pays, ou ceux qui s'adonnent du moins aux travaux champêtres, qui perdent la lisibilité de leurs empreintes digitales. Et toute cette catégorie-là, vous allez dire, non, ces gens n'ont pas droit au vote, ce sont des Congolais.
Et donc ce ne sont pas des...
Et vous allez dire que quelqu'un qui a connu un accident, qui a perdu un ou deux doigts, il n'a pas droit au vote, parce que ça manque, alors que la photographie est là et tous les autres critères sont réunis. On doit quand même être sérieux. Mais de toutes les façons, la préoccupation de Mme Eve, je vous le dis, sur le plan tout à fait légal,
merci,
les listes, il y aura affichage des listes et les gens pourront aller pouvoir si vrai ou faux ceux qui sont là sont réellement des gens enrôlés, merci, dans les différentes circonscriptions électorales.
Merci. Alain Lomandja, vous êtes analyste des questions électorales. Comment vous analysez ce rapport préliminaire de l'EIF?
Alors, je salue d'abord le professeur Joly et M. Mouik, ainsi que tous les auditeurs de Radio Okapi. Et je voudrais commencer par dire que la question du fichier électoral est une question très, très sensible et très délicate qui demande qu'on en parle avec beaucoup de responsabilité. Et ensuite, je voudrais faire deux observations préliminaires avant d'aborder le rapport en lui-même. Si on regarde attentivement les deux rapports d'audit qui ont été produits par l'OIF en 2015 et en 2018, et si on accepte la proposition qui a été faite en 2015 d'enrôler les mineurs et en faire la majorité, et ensuite cette proposition autour des gens qui se sont enrôlés sans empreinte digitale en 2018, on se rend compte que presque toutes les autres observations sont les mêmes en 2015 comme en 2018. Et on a commencé de dire, mais tout ça pour ça, on a passé 3 ans à reconstituer un nouveau fichier électoral pour se retrouver avec les mêmes problèmes qui suscitent les mêmes recommandations. Pourquoi a-t-on gâché ce temps-là? La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que c'est l'enrôlement le plus long que nous avons connu dans la jeune histoire électorale du pays. Et avec un nombre plus élevé, pratiquement les doubles d'équipes électoraux par rapport à 2005 et 2011. Mais on a toujours les mêmes problèmes. Donc on a passé du temps à reconstituer ce fichier-là, alors qu'on aurait pu aller aux élections avec le fichier stabilisé et fiabilisé de 2011. Alors revenons au rapport qui a été produit, ce que je constate, c'est que c'est un rapport qui comporte des éléments techniques assez importants et non négligeables, mais en même temps une dimension politique indéniable. La dimension politique se voit un peu même dans le choix de la terminologie. Le rapport dit, par exemple, que le fichier est inclusif, exhaustif. Je veux juste prendre l'adjectif exhaustif. Comment un fichier exhaustif peut comporter tant de problèmes que le rapport lui-même souligne, alors que la totalité des électeurs potentiels n'ont pas été enrôlés, alors qu'il y a des informations relatives aux électeurs qui manquent, mais quand même, diplomatiquement, l'OIF dit que c'est un rapport exhaustif, ce qui n'est pas le cas. Mais ceci me permet de dire aussi que le rapport contient des éléments techniques très importants et montre les forces du fichier électoral actuel. Je peux citer en passant, par exemple, l'enregistrement anticipatif des mineurs qui auront atteint l'âge légal du vote avant les élections de décembre. Le fait, par exemple, qu'il y a inclusion dans le fichier électoral, le pourcentage élevé des femmes enrôlées, 51% des femmes enrôlées, au terme du dédoublonnage. Donc ce sont autant d'éléments positifs de ce fichier qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi un élément très important, le taux de doublons. Après les opérations de dédoublonnage, le taux estimé de doublons qui reste dans le fichier électoral est relativement bas. C'est plus ou moins 0,34% d'après ce que je lis dans le rapport. Donc je considère cela comme un élément positif.
Alain Lomanja,
il y a quand même des...
Alain Lomanja, oui. Alors en faisant référence à vos deux précédentes observations, quand vous dites qu'on a perdu du temps presque pour la même chose, selon vous, qu'auriez-vous souhaité que l'OIF fît?
En fait, le problème n'est pas celui de l'OIF. Disons que l'audit du fichier électoral n'est pas à proprement parler une activité préélectorale qui aurait un impact sur le processus électoral. L'audit du fichier électoral, c'est une activité politique qui est destinée à créer la confiance des parties prenantes dans le fichier qui a été constitué. Donc le problème se situe du côté de la CENI, parce que la CENI a joué le jeu des agendas politiques en discréditant le fichier électoral fiabilisé de 2011 pour nous amener à la constitution d'un nouveau fichier électoral. Et c'est comme ça qu'on a perdu du temps inutilement.
Alors, tout à l'heure, vous faisiez allusion au nombre de doublons qui est sensiblement réduit, mais vous avez suivi professeur Jacques Joly relever que ce fichier n'a fait qu'entamer la confiance entre les différents acteurs au processus électoral.
Oui, ça dépend de la lecture qu'on fait de ce fichier-là. Il y a une faiblesse que j'ai ressentie un peu dans le discours de l'opposition, notamment de Madame Bazaïba, c'est le fait de vouloir agréger et les électeurs qui ont déjà été les doublons et les mineurs qui ont déjà été radiés, plus les doublons potentiels qui restent. Et quand on agrège tout ça, ça donne un chiffre élevé. Mais pratiquement, d'un point de vue technique, on ne peut plus compter les 6 millions de doublons et des mineurs qui ont été radiés parce que techniquement, ils ne font plus partie du fichier électoral. Le problème se posera sur le terrain. Comment on fait pour éviter que ces personnes radiées-là ne puissent participer au vote? Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a peut-être des propositions qu'on peut faire.
Merci.
Et la première proposition pour moi ne consiste pas...
Alain Lomanja? Alain Lomanja?
Oui.
Souffrez s'il vous plaît que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole pour développer cet aspect dans le prochain tour des tables. Professeur Jacques Joly, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Robert Baume de Bukavu au sud Kivu. Je pense que ce rapport de l'Organisation internationale de la francophonie est beaucoup plus objectif et clair que celui de l'opposition. Où et comment l'opposition a-t-elle trouvé ce chiffre de 23% d'électeurs dont l'enrôlement était irrégulier alors qu'elle n'est pas du tout bien représentée au sein de la CENI? N'est-ce pas là un rapport inutile et subjectif de l'opposition? Mais dans tous les cas, le fichier électoral étant réellement incorrect et entaché d'irrégularité, il serait mieux que la CENI, la majorité présidentielle et l'opposition se mettent ensemble pour l'arranger bien afin d'organiser les élections à la date du 23 décembre prochain conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre.
Professeur Joly.
Oui, je comprends la préoccupation de notre compatriote, mais comme l'a dit notre ami l'expert M. Lomanja, la question du fichier électoral doit être analysée avec beaucoup de sérieux et de responsabilité. Lorsqu'on retrouve 16,6% d'électeurs sans empreinte, et puis on dit que ce sont des Congolais qui ont souffert de lèpre, ou qui ont des droits illisibles parce qu'ils travaillent dans le champ, je trouve que ce n'est pas tenir compte de la gravité de la situation que peut causer, n'est-ce pas, le faiblesse d'un fichier électoral. Oui, Madame Bazaïba parle d'un chiffre élevé, mais je crois que le fichier doit être pris dans son intégralité. Et c'est d'ailleurs une condition, n'est-ce pas, d'analyse d'un fichier. L'unicité, l'unité, l'inclusivité. Lorsque vous partez d'un chiffre de 46 542 280 enrôlés et que vous tombez à 40 281. Donc vous arrivez à plus ou moins 6 millions, ce qui fait un chiffre de 12 à 13% d'un premier travail. Et la CENI, mais la OIF dit, le travail des nettoyages continue. Donc on ne sait pas. Ensuite, on arrive à trouver 16,6% d'électeurs sans empreinte. Nos amis disent, ça n'a aucune importance, ma foi. Lorsque l'article 25 de la loi donne les 10 critères, les 10 éléments pour qu'on soit admis à être enrôlé, l'élément empreinte est un élément fondamental. Et lorsque vous n'avez pas d'empreinte, ou vous avez des un fichier avec moins de 10 empreintes, mais c'est un problème. C'est une délinquance qui est là. Et qui est délinquant? Lorsque on vous dit que nous avons porté plainte pour le 5 millions d'enrôlés qui étaient, n'est-ce pas, dans une situation irrégulière. Je voudrais revenir sur l'ensemble. Des amis ont dit qu'en 2011, il y a eu des problèmes. Les problèmes, c'était quoi? Lorsque vous enlevez ou vous dites qu'il y a des enrôlés irréguliers et que vous allez publier la liste, mais ces enrôlés gardent leur carte. Disons déjà que dans le rapport ici, on vous dit qu'il y a au moins 2% de cartes qui ne sont pas rentrées à la CENI. Donc il y a plus ou moins 1 million de cartes vierges en circulation. Donc il y a deux problèmes. Et ces problèmes, dès le départ, nous en sommes convenus avec l'OIF pour dire, nous devons arriver à ce que lui-même le général avait dit, une liste électorale consensuelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas de liste électorale consensuelle. La CENI nous dit, de demain, je commence à publier les listes. Celui qui ne voit pas son nom ou celui qui a vu son nom va aller. Non, ce n'est pas la responsabilité des électeurs. C'est d'abord la responsabilité de la CENI de produire une liste électorale crédible. Nous n'en avons pas. À partir du moment où nous ne savons pas qui va voter et pourquoi il est là ou n'est pas là, mais nous sommes dans une situation d'insécurité juridique. Donc, je demande que nous soyons tous conscients des difficultés et que demain, nous allons nous retrouver avec plus de 25% de personnes à partir de ceux qui ont été enrôlés, les 46 millions. On a dit qu'on les a radiés, mais moi je connais comment ça se passe, parce que si vous dites que vous avez radié et que dans le serveur central, ces données restent, et donc, mais ça va poser des problèmes.
C'est là que l'on va
alors,
les
et l'autre tricheurs. Point qu'on a souligné, dit oui, les experts de l'opposition n'ont pas dit. Les experts de l'opposition ont beaucoup insisté. Et pour arriver au serveur, c'est le général Sangaré qui a été mis sous pression. Parce qu'il dit voilà, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc,
merci.
Je crois qu'il faut prendre en charge toutes ces difficultés et que ceux qui assument cette responsabilité puisse comprendre. Sinon, on merci. Devient dans une CENI qui est en train elle-même de créer les conditions de contestation
merci,
du
professeur.
Processus électoral.
Gilbert Mouyika, très rapidement.
Bien, il y a beaucoup de choses qui sont dites par le professeur. Je crois que je suis en face d'un législateur et de surcroît professeur de droit. Et la loi d'abord, la loi on ne la négocie pas. Quand la loi est promulguée, il faut l'appliquer. Ça, c'est clair, ça ne se négocie pas. Et des deux, quand le professeur dit que le général Sangaré était mis sous pression, je pense que vous auriez fait œuvre utile en invitant plutôt les experts de l'opposition qui étaient dans la salle. Je vous dis qu'il n'y a eu rien de tel. Et je pense que la délégation de l'OIF est encore ici à Kinshasa. Je vous dis qu'il n'y a eu rien de tel. Nous avons travaillé dans une ambiance patriotique. À tel point qu'il y a eu même des gens dans la salle qui se sont exclamés pour dire « Mais apparemment, il n'y a pas d'opposition dans cette salle, il n'y a pas de majorité dans cette salle. »
Il y avait unanimité.
Il y avait unanimité jusqu'au soir du 24 mai, j'insiste là-dessus, 2018, où nous, experts, nous avons adopté le texte. Évidemment, après avoir réagi à la question posée par le général Sangaré, pour voir s'il y avait une recommandation qu'on n'avait pas prise en compte. Donc, tout ce qui se raconte maintenant, en dehors de ce que moi je vous dis maintenant,
ce sont des aspects politiques. Les gens essayent de faire du sensationnel. Alors,
chacun ils voit le verre d'enfler à moitié plein ouais,
tout
ou
à
moitié
vide. On sait qu'en politique, chacun voit midi devant sa porte. Ça, on le sait. Mais il faut une dose de bonne foi.
Alors,
et surtout de sincérité, parce que c'est une question brûlante.
Voilà.
Et j'avais également quelque chose à dire quand même par rapport aux déclarations de l'expert.
Vous y revenez, c'est vous qui avez la parole, Gilbert Mouika, ne vous inquiétez pas. Nous prenons d'abord cette réaction pour vous qui vient de Mahagui.
Adoubango, Dieudonné, j'étais depuis Mahagui dans la province de l'Ituri. À mon avis, les experts de l'OIF et les autres composantes n'ont pas tort de dénoncer les imperfections étant donné que c'était leur mission. Néanmoins, même si je ne suis pas membre de la centrale électorale, je tiens à signaler que plusieurs requérants avaient été soit des handicapés, soit la machine ne reconnaissait pas leurs apprêtes, etc., etc. Ce qui poussait automatiquement certains présidents du centre d'inscription à amputer leurs apprêtes pour les comptes du requérant avis de les enrôler normalement. Bref, soit nous allons aux élections le 23 décembre 2018 où nous recommandons à la CENI de reprendre avec la révision du fichier électoral. À nous, les choix.
Gilbert Mouika.
Vous savez, finalement, moi particulièrement, je n'ai jamais compris ce que veut exactement l'opposition. Vous savez, tout à l'heure, l'expert d'Imanja a déploré le fait que... Il a déploré le fait qu'on aurait dû organiser les élections sans tenir compte. Parce que aujourd'hui, on revient pratiquement sur les anciennes considérations. Il n'y a pratiquement rien de neuf. Vous savez que s'il y a eu retard dans la tenue des élections dans ce pays ici, c'est suite aux différentes réclamations de l'opposition. Vous savez que la CENI avait fait un travail extraordinaire en 2014. Le travail qui consistait à la fiabilisation des listes. Mais également, je crois que c'est l'expression qui m'échappe, mais la cartographie qu'on devrait également réinitialiser. Le travail a été fait, un travail formidable. Et il était question qu'on enrôle uniquement les jeunes majeurs. Mais qui n'a pas voulu de ça? C'est l'opposition. Aujourd'hui, on revient pratiquement avec les mêmes considérations. Et l'OIF, parce que l'OIF a été invité, c'était un consensus pratiquement pour que l'OIF vienne travailler en tant qu'auditeur. L'OIF arrive, donne des conclusions pour dire non, ce fichier, il est actualisé. Mais l'opposition refuse. On estime que le fichier n'est pas actualisé. Notre frère a raison quand il dit, mais lui il est sur le terrain, il est à l'intérieur du pays. Il dit, mais oui, il a constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup d'handicapés qui se sont fait enrôler. Quand moi je dis, professeur, je crois que nous parlons des choses sérieuses quand même. Quand moi je dis que il y a par exemple quelqu'un qui a souffert de lèpre, ce n'est pas pour dire que toute la population congolaise est dans ces cas-là. J'ai dit, il peut y avoir quelqu'un qui a souffert de lèpre et qui a perdu ses doigts.
Ça, vous l'avez dit, Gilbert Mouika. Passons à un autre aspect. Le professeur Jolie a soulevé le fait que la loi sur la répartition des sièges a été promulguée.
Oui.
Et là, avec toutes ces irrégularités, qu'est-ce qui va se passer finalement? Faudrait-il une loi rectificative? Comment ça va se passer?
Ben, ça sera vraiment une innovation. Ça, bon, nous sommes en présence d'un législateur. Je ne sais pas s'il peut confirmer ce que vous venez de dire, mais je vous dis que la loi ne va pas rétroagir. Il n'y aura pas un rétro-pédalage par rapport à cela. Ce qui est fait maintenant, toutes les considérations relevées par l'audit, ça c'est pour l'avenir. Ça c'est pour la tenue du fichier de notre fichier électoral. Ça c'est pour l'avenir. Mais maintenant là, la loi elle est là et elle doit s'appliquer.
Merci. Alain Lomanja, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Professeur Ignace Ndala depuis Kolwezi dans le Lualaba. En effet, il y a des remarques de fond et des qualificatifs perfectibles qui suivent. La CENI ne devrait pas minimiser ou banaliser la chose au point de vouloir nous faire croire que le passage de l'OIS n'était qu'un bluff, comme qui dirait, en double contrôle du fichier égal après ce contrôle. Notre centrale électorale doit se remettre en confiance au lieu de rester collé mordicus aux dates. Il faut rappeler ici, date oui, mais élection apaisée surtout.
J'ajoute cette réaction de Johnny Lenza qui nous écrit de Kinshasa qui dit « Les experts de l'OIF jettent un pavé dans la mare, l'existence de plus de 16% d'enrôlés sans empreinte digitale dans un fichier soutenu par une machine à voter controversée même par ses fabricants. » Alain Lomanja.
Oui, je crois que tous les deux auditeurs ont parfaitement raison. Il y a une attitude qu'on peut déplorer dans les chefs de la CENI, c'est la facile autosatisfaction par rapport à son propre travail qui donne l'impression qu'elle n'est pas disposée à écouter les autres sons de cloche qui peuvent venir de, d'autres parties prenantes au processus électoral. Parce que les observations qui sont faites et dans le rapport et par l'opposition, il y en a qui sont pertinentes et qui doivent être prises en compte pour l'amélioration du fichier électoral et donc du processus électoral en lui-même. Je prends par exemple le nombre d'enrôlés sans empreinte digitale. On peut dire que c'est pas grave, mais en fait le problème c'est quoi? Déjà au niveau du travail de dédoublonnage, un aspect important de ce travail, c'est la comparaison systématique des empreintes digitales. Et donc quand vous avez 16% d'électeurs sans empreintes digitales, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous rendre compte s'il s'agit des électeurs réels ou tout simplement des doublons. Et ça, c'est une difficulté réelle. Il y a aussi le fait que dans le fichier, vous avez plus ou moins, non pas plus ou moins, le chiffre exact est 498 345 mineurs qui n'auront pas atteint la majorité au 23 décembre 2018. Donc, ils ne doivent pas participer aux élections. Si, déjà, par rapport à la répartition des sièges, ça représente 6 sièges flottants qui n'auraient pas dû être attribués, mais qui l'ont été à cause de la présence de ces mineurs-là dans le fichier électoral. Et donc, si on doit les éliminer du fichier électoral, ça peut remettre en cause même l'ancienne répartition des sièges. Ça peut remettre en cause cela. Or, la CENI prend tout ça à la légère et dit que ça va se passer facilement. Pour répondre à cette question, par exemple, à la multitude des cartes en circulation, la CENI dit qu'elle va afficher les listes. On sait que c'est important, on sait que c'est légal, c'est une obligation légale. Mais on sait que dans la pratique, qui va vérifier les listes affichées? C'est juste un électeur qui part pour voir si son nom est repris et c'est tout. Est-ce qu'il y aura des électeurs qui vont aller pour vérifier si les gens qui ont été radiés par la CENI ne figurent plus sur ces listes électorales? Ça ne se fera pas. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par la CENI pour récupérer les cartes d'électeurs qui ont été distribuées aux personnes radiées? On ne sait pas, mais on dit tout simplement on va afficher les listes, c'est parfait, c'est correct, et ça je trouve que ce n'est pas une attitude professionnelle.
Alors Alain Lomanja, finalement, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'opposition pense que le fichier il n'est pas crédible, il ne consolide pas la confiance, la majorité pense que tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution ici et maintenant pour avoir un processus électoral apaisé?
Oui, la première proposition que moi je voulais faire, c'est de pouvoir limiter considérablement la possibilité de vote sur la liste des omis. À partir du moment où on sait qu'il y a un nombre important de citoyens qui détiennent des cartes d'électeurs sans avoir le droit à participer au vote, il va falloir que l'affichage des listes permette les corrections nécessaires pour les personnes qui n'auront pas été radiés, mais qu'ensuite, après cet affichage-là, au jour du vote, qu'on interdise carrément la possibilité de voter par, sur la liste des omis. Comme ça, on ne fait pas participer les détenteurs illégaux des cartes d'électeurs. Ça, c'est la première proposition que moi je peux faire. La deuxième proposition, c'est au niveau du dispositif même de vote. On va utiliser une machine à voter, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que la CENI ne veut pas renoncer à cette option-là. Mais ces machines-là n'ont pas de spécifications techniques pour reconnaître les empreintes digitales. Et donc, ce qui ouvre la machine, c'est cette histoire de bulletin unique qu'on y introduit. Et alors, comment est-ce qu'on peut voir à partir des bureaux de vote pour limiter, en se servant des listes actualisées des électeurs, la possibilité pour les personnes détenteurs des cartes d'électeurs non légales à participer au vote.
Merci Alain Lomanja. Merci Alain Lomanja. Je vous redonne la parole pour la conclusion. Professeur Jacques Joly, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Richard Ngila qui est à Kinshasa dit la CENI doit accepter de radier du fichier électoral les 16% des personnes enrôlées sans empreinte pour sa propre crédibilité, car n'eût été l'audit externe, cet aspect allait passer inaperçu.
Oui, je crois qu'il a raison. C'est vraiment un problème de responsabilité. Parce que lorsque on a posé au général Sangaré la question sur ces 16,8%, il m'a répondu, nous sommes perplexes. C'est une préoccupation majeure et il faut mener une analyse. Malheureusement, cette analyse n'a pas pu identifier le motif réel de l'absence d'empreinte. On nous dit, c'est peut-être des lépreux. Prenons ça comme ça. 16% dans un fichier.
Alors la solution, c'est quoi, professeur, la solution, de conclusion déjà?
La solution, l'OIF propose de poursuivre les investigations portant sur l'absence de motif pour les électeurs ayant été enregistrés sans empreinte et de paramétrer les logiciels. Pour nous, nous avons proposé ceci, et c'est ce qu'a dit pratiquement l'expert. Il faut que nous puissions arriver à une liste électorale consensuelle qui passe par la radiation sans délai de ces...
Merci.
Tous ces 24%, c'est-à-dire le 16% sans empreinte.
Merci.
Et les autres qui ont déjà été radiés.
Merci.
Et surtout, il y a d'isoler, et l'OIF propose,
merci,
d'isoler des mineurs qui ont été enrôlés.
Merci, professeur. Gilbert Mouika.
Ce que nous avons maintenant, c'est peut-être autour des 16,6%. Ceux qui ont déjà été radiés, les radier à nouveau, c'est en fait... ce sont des fantômes, en fait. Hein. Donc, on va radier des fantômes. Et quand on parle de radiation, c'est-à-dire que les noms de ces gens-là ne pourront plus figurer sur les listes des électeurs. Et ça, c'est déjà une grande sécurité. Parce que ces gens n'auront pas accès dans le bureau de vote. Pour autant que leurs noms ne seront pas repris sur les listes électorales. Là, c'est clair. Alors...
Là, c'est une évolution, mais on se...
Alors, l'espère. je voudrais, parce que on s'attarde un peu trop sur les 16, je vous dis que les empreintes digitales, c'est pratiquement l'un des éléments à prendre en compte pour identifier un électeur. Mais cela est atténué par l'article 22 des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Et là-dessus, je crois que c'est à la linéa 4, il est dit que toutefois, pour les personnes qui ne disposent pas d'empreintes digitales pour cause d'handicap et pour celles dont les empreintes sont illisibles, la saisie des autres renseignements personnels sera effectuée après autorisation préalable du président du centre d'inscription. Il en sera fait mention dans la fiche d'identification. Voilà la solution légale. On n'a pas à chercher la solution extra-cathédra.
Alors, en guise de conclusion, Gilbert Mouika...
Pour les cartes.
C'est
je
par là
vous
que
dis
vous
que
terminez.
les reliquats des cartes, il y a déjà moi, je parle en tant qu'expert ayant participé aux travaux. Il y a déjà 97,7% des cartes qui ont été restituées. Aujourd'hui, les investigations continuent pour voir où sont logés le reste de 2,3.
Merci.
Voilà. Non.
C'est par là que vous terminez. Regardez le chrono, s'il vous plaît. Vous êtes à 12 minutes 12. Concluez, s'il vous plaît, en un mot.
Ben, pour le reste, il faut noter que les gens qui n'ont pas d'empreinte digitale lisible ont au moins des photos.
Merci.
Donc physiquement, on peut retrouver ces gens-là.
Ce ne sont pas des fictifs.
Ce ne sont pas des fictifs, ce ne sont pas des fantômes.
Merci, vous êtes à 12 minutes 26.
Ça, c'est un problème de sémantique.
Et le professeur Jolie à 12-18. Alain Lomanja, à votre conclusion, vous avez une troisième proposition.
Oui, je voulais rappeler aux représentants de la majorité que l'accès au bureau de vote est déjà garanti par la détention d'une carte d'électeur. Et ce qu'il faut empêcher ici, c'est la possibilité de vote sur la liste de domicile qui permettrait à ces détenteurs illégaux des cartes d'électeurs de participer au vote. Et enfin, je voudrais inviter à trouver un consensus. Personne ne dit que les 16% là voteront pour la majorité ou pour l'opposition. Voilà. Pourquoi est-ce que la classe politique ne peut pas s'entendre sur ce point?
Alors, on a déjà un problème avec la machine à voter. Le consensus est difficile. Comment ça va se passer, Alain Omandja, en un mot?
Je crains que le processus électoral ne puisse déraper et que la préparation des élections ne tourne finalement à la préparation des conflits post-électoraux
énormes.
Je pense qu'il faut favoriser le consensus.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.